Madame de Stael, de l'Allemagne, seconde partie, la littérature et les arts, chapitre 10, de la poésie. Ce qui est vraiment divin dans le cœur de l'homme ne peut être défini. S'il y a des mots pour quelques traits, il n'y en a point pour exprimer l'ensemble et surtout le mystère de la véritable beauté dans tous les genres. Il est facile de dire ce qui n'est pas de la poésie, mais si l'on veut comprendre ce qu'elle est, il faut appeler à son secours les impressions qu'excite une belle contrée, une musique harmonieuse, le regard d'un objet chéri, et par-dessus tout un sentiment religieux qui nous fait éprouver en nous-mêmes la présence de la divinité. La poésie est le langage naturel à tous les cultes. La Bible est pleine de poésie. Homère est plein de religion. Ce n'est pas qu'il y ait des fictions dans la Bible ni des dogmes dans Homère, mais l'enthousiasme rassemble dans un même foyer des sentiments divers. L'enthousiasme est l'encens de la terre vers le ciel, il les réunit l'un à l'autre. Le don de révéler par la parole ce qu'on ressent au fond du cœur est très rare. Il y a pourtant de la poésie dans tous les êtres capables d'affections vives et profondes. L'expression manque à ceux qui ne sont pas exercés à la trouver. Le poète ne fait, pour ainsi dire, que dégager le sentiment prisonnier au fond de l'âme. Le génie poétique est une disposition intérieure de la même nature que celle qui rend capable d'un généreux sacrifice. C'est rêver l'héroïsme que composer une belle ode. Si le talent n'était pas mobile, il inspirerait aussi souvent les belles actions que les touchantes paroles, car elles partent toutes également de la conscience du beau qui se fait sentir en nous-mêmes. Un homme d'un esprit supérieur disait que la prose était factice et la poésie naturelle. En effet, les nations peu civilisées commencent toujours par la poésie, et dès qu'une passion forte agite l'âme, les hommes les plus vulgaires se servent à leur insu d'images et de métaphores. Ils appellent à leur secours la nature extérieure pour exprimer ce qui se passe en eux d'inexprimable. Les gens du peuple sont beaucoup plus près d'être poètes que les hommes de bonne compagnie, car la convenance et le persiflage ne seront propres qu'à servir de borne, ils ne peuvent rien inspirer. Il y a lutte interminable dans ce monde entre la poésie et la prose, et la plaisanterie doit toujours se mettre du côté de la prose, car c'est rabattre que plaisanter. L'esprit de société est cependant très favorable à la poésie de la grâce et de la gaieté dans l'Arioste, La Fontaine, Voltaire, sont les plus brillants modèles. La poésie dramatique est admirable dans nos premiers écrivains. La poésie descriptive et surtout la poésie didactique a été portée chez les Français à un très haut degré de perfection, mais il ne paraît pas qu'ils soient appelés jusqu'à présent à se distinguer dans la poésie lyrique ou épique telle que les anciens et les étrangers la conçoivent. La poésie lyrique s'exprime au nom de l'auteur même. Ce n'est plus dans un personnage qu'il se transporte, c'est en lui-même qu'il trouve les différents mouvements dont il est animé. Jean-Baptiste Rousseau, dans ses odes religieuses, Racine dans Attali, se sont montrés poètes lyriques. Ils s'étaient nourris des psaumes et pénétrés d'une foi vive. Néanmoins, les difficultés de la langue et de la versification française s'opposent presque toujours à l'abandon de l'enthousiasme. On peut citer des strophes admirables dans quelques-unes de nos odes, mais y en a-t-il une entière dans laquelle le dieu n'ait point abandonné le poète ? De beaux vers ne sont pas de la poésie. L'inspiration dans les arts est une source inépuisable qui vivifie depuis la première parole jusqu'à la dernière. Amour, patrie, croyance, tout doit être divinisé dans l'ode. C'est l'apothéose du sentiment. Il faut, pour concevoir la vraie grandeur de la poésie lyrique, errer par la rêverie dans les régions éthérées, oublier le bruit de la terre en écoutant l'harmonie céleste et considérer l'univers entier comme un symbole des émotions de l'âme. L'énigme de la destinée humaine n'est de rien pour la plupart des hommes. Le poète l'a toujours présente à l'imagination. L'idée de la mort qui décourage les esprits vulgaires rend le génie plus audacieux, et le mélange des beautés de la nature et des terreurs de la destruction excite je ne sais quel délire de bonheur et d'effroi sans lequel on ne peut ni comprendre ni décrire le spectacle de ce monde. La poésie lyrique ne raconte rien, ne s'astreint en rien à la succession des temps ni aux limites des lieux. Elle plane sur les pays et sur les siècles. Elle donne de la durée à ce moment sublime pendant lequel l'homme s'élève au-dessus des peines et des plaisirs de la vie. Il se sent au milieu des merveilles du monde comme un être à la fois créateur et créé qui doit mourir et qui ne peut cesser d'être, et dont le cœur tremblant et fort en même temps s'enorgueillit en lui-même et se prosterne devant Dieu. Les Allemands réussissent tout à la fois, ce qui est très rare, l'imagination et le recueillement contemplatif. Ils sont plus capables que la plupart des autres nations de la poésie lyrique. Les modernes ne peuvent se passer d'une certaine profondeur d'idées dont une religion spiritualiste leur a donné l'habitude. Et si cependant cette profondeur n'était point revêtue d'images, ce ne serait pas de la poésie. Il faut donc que la nature grandisse aux yeux de l'homme pour qu'il puisse s'en servir comme de l'emblème de ses pensées. Les bosquets, les fleurs et les ruisseaux suffisaient aux poètes du paganisme. La solitude des forêts, l'océan sans bornes, le ciel étoilé peuvent à peine exprimer l'éternel et l'infini dont l'âme des chrétiens est remplie. Les Allemands n'ont pas plus que nous de poèmes épiques. Cette admirable composition ne paraît pas accordée aux modernes, et peut-être n'y a-t-il que l'Iliade qui répond entièrement à l'idée qu'on se fait de ce genre d'ouvrage. Il faut pour le poème épique un concours singulier de circonstances qui ne s'est rencontré que chez les Grecs, l'imagination des temps héroïques et la perfection du langage des temps civilisés. Dans le Moyen-Âge, l'imagination était forte, mais le langage imparfait. Et de nos jours, le langage est pur, mais l'imagination est en défaut. Les Allemands ont beaucoup d'audace dans les idées et dans le style, et peu d'invention dans le fond du sujet. Leurs essais épiques se rapprochent presque toujours du genre lyrique. Ceux des Français rentrent plutôt dans le genre dramatique, et l'on n'y trouve plus d'intérêt que de grandeur. Quand il s'agit de plaire au théâtre, l'art de se circonscrire dans un cadre donné, de deviner le goût des spectateurs et de s'y plier avec adresse, fait une partie du succès, tandis que rien ne doit tenir aux circonstances extérieures et passagères dans la composition d'un poème épique. Il exige des beautés absolues, des beautés qui frappent le lecteur solitaire, lorsque ses sentiments sont plus naturels et son imagination plus hardie. Celui qui voudrait trop hasarder dans un poème épique pourrait bien encourir le blâme sévère du bon goût français, mais celui qui ne hasarderait rien n'en serait pas moins dédaigné. Boileau, tout en perfectionnant le goût et la langue, a donné à l'esprit français, l'on ne saurait le nier, une disposition très défavorable à la poésie. Il n'a parlé que de ce qu'il fallait éviter. Il a insisté que sur des préceptes de raison et de sagesse qui ont introduit dans la littérature une sorte de pédanterie très nuisible au sublime élan des arts. Nous avons en français des chefs-d'œuvre de versification, mais comment peut-on appeler la versification de la poésie? Traduire en vers ce qui était fait pour rester en prose, exprimer en 10 syllabes comme Pop, les jeux de cartes et leurs moindres détails, ou comme les derniers poèmes qui ont paru chez nous, le tric-trac, les échecs, la chimie. C'est un tour de passe-passe, en fait, de paroles. C'est composé avec les mots comme avec les notes des sonates sous le nom de poème. Il faut cependant une grande connaissance de la langue poétique pour décrire ainsi noblement les objets qui prête le moins à l'imagination. Et l'on a raison d'admirer quelques morceaux détachés de ces galeries de tableaux. Mais les transitions qui les lient entre eux sont nécessairement prosaïques, comme ce qui se passe dans la tête de l'écrivain. Il s'est dit « Oh, je ferai des vers sur ce sujet, puis sur celui-ci, puis sur celui-là. » Et sans s'en apercevoir, il nous met dans la confidence de sa manière de travailler. Le véritable poète conçoit, pour ainsi dire, tout son poème à la fois, au fond de son âme, sans les difficultés du langage. Il improviserait, comme la Sibylle et les prophètes, les hymnes saints du génie. Il est ébranlé par ses conceptions, comme par un événement de sa vie. Un monde nouveau s'offre à lui, l'image sublime de chaque situation, de chaque caractère, de chaque beauté de la nature, frappe ses regards, et son cœur bat pour un bonheur céleste qui traverse comme un éclair l'obscurité du sort. La poésie est une possession momentanée de tout ce que notre âme souhaite. Le talent fait disparaître les bornes de l'existence et change en image brillante le vague espoir des mortels. Il serait plus aisé de décrire les symptômes du talent que de lui donner des préceptes. Le génie se sent comme l'amour, par la profondeur même de l'émotion dont il pénètre celui qui en est doué. Mais si l'on osait donner des conseils à ce génie, dont la nature veut être le seul guide, ce ne serait pas des conseils purement littéraires qu'on devrait lui adresser. Il faudrait parler aux poètes comme à des citoyens, comme à des héros. Il faudrait leur dire « Soyez vertueux, soyez croyants, soyez libres, respectez ce que vous aimez, cherchez l'immortalité dans l'amour et la divinité dans la nature, enfin, sanctifiez votre âme comme un temple, et l'ange des nobles pensées ne dédaignera pas d'y apparaître. » Chapitre 11 de la poésie classique et de la poésie romantique. Le nom de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner la poésie dont les chants des troubadours ont été l'origine, celle qui est née de la chevalerie et du christianisme. Si l'on n'admet pas que le paganisme et le christianisme, le Nord et le Midi, l'Antiquité et le Moyen-Âge, la chevalerie et les institutions grecques et romaines se sont partagés l'empire de la littérature, l'on ne parviendra jamais à juger sous un point de vue philosophique le goût antique et le goût moderne. On prend quelquefois le mot classique comme synonyme de perfection. Je m'en sers ici dans une autre acception, en considérant la poésie classique comme celle des anciens, et la poésie romantique comme celle qui tient de quelque manière aux traditions chevaleresques. Cette division se rapporte également aux deux ères du monde, celle qui a précédé l'établissement du christianisme et celle qui l'a suivi. On a comparé aussi dans divers ouvrages allemands la poésie antique à la sculpture et la poésie romantique à la peinture. Enfin, l'on a caractérisé de toutes les manières la marche de l'esprit humain, passant des religions matérialistes aux religions spiritualistes, de la nature à la divinité. La nation française, la plus cultivée des nations latines, penche vers la poésie classique, imitée des Grecs et des Romains. Et la nation anglaise, la plus illustre des nations germaniques, aime la poésie romantique et chevaleresque et se glorifie des chefs-d'œuvre qu'elle possède en ce genre. Je ne examinerai point ici lequel de ces deux genres de poésie mérite la préférence. Il suffit de montrer que la diversité des goûts à cet égard dérive non seulement de causes accidentelles, mais aussi des sources primitives de l'imagination et de la pensée. Il y a dans les poèmes épiques et dans les tragédies des anciens un genre de simplicité qui tient à ce que les hommes étaient identifiés à cette époque avec la nature, et croyait dépendre du destin comme elle dépend de la nécessité. L'homme, réfléchissant peu, portait toujours l'action de son âme au dehors. La conscience elle-même était figurée par des objets extérieurs, et les flambeaux des furies secouaient les remords sur la tête des coupables. L'événement était tout dans l'Antiquité. Le caractère tient plus de place dans les temps modernes. Et cette réflexion inquiète, qui nous dévore souvent comme le vautour de Prométhée, n'eût semblé que de la folie au milieu des rapports clairs et prononcés qui existaient dans l'état civil et social des anciens. On ne faisait en Grèce, dans le commencement de l'art, que des statues isolées, les groupes ont été composés plus tard. On pourrait dire de même, avec vérité, que dans tous les arts, il n'y avait point de groupe. Les objets représentés se succédaient comme dans les bas-reliefs, sans combinaison, sans complication d'aucun genre. L'homme personnifiait la nature. Des nymphes habitaient les eaux, les amadriades les forêts. Mais la nature à son tour s'emparait de l'homme, et l'on eût dit qu'il ressemblait au torrent, à la foudre, au volcan, tant il agissait par une impulsion involontaire, et sans que la réflexion pût en rien altérer les motifs ni les suites de ses actions. Les anciens avaient pour ainsi dire une âme corporelle, dont tous les mouvements étaient forts, directs et conséquents. Il n'en est pas de même du cœur humain, développé par le christianisme. Les modernes ont puisé, dans le repentir chrétien, l'habitude de se replier continuellement sur eux-mêmes. Mais pour manifester cette existence tout intérieure, il faut qu'une grande variété dans les faits présente sous toutes les formes les nuances infinies de ce qui se passe dans l'âme. Si de nos jours les beaux-arts étaient astreints à la simplicité des anciens, nous n'atteindrions pas la force primitive qui les distingue, et nous perdrions les émotions intimes et multipliées dont notre âme est susceptible. La simplicité de l'art chez les modernes tournerait facilement à la froideur et à l'abstraction, tandis que celle des anciens était pleine de vie. L'honneur et l'amour, la bravure ou la pitié sont les sentiments qui signaient le christianisme chevaleresque. Et ces dispositions de l'âme ne peuvent se faire voir que par les dangers, les exploits, les amours, les malheurs, l'intérêt romantique, enfin, qui varie sans cesse les tableaux. Les sources des effets de l'art sont donc différentes à beaucoup d'égards dans la poésie classique et dans la poésie romantique. Dans l'une, c'est le sort qui règne, dans l'autre, c'est la providence. Le sort ne compte pour rien les sentiments des hommes. La providence ne juge les actions que d'après les sentiments. Comment la poésie ne créerait-elle pas un monde d'une toute autre nature quand il faut peindre l'œuvre d'un destin aveugle et sourd, toujours en lutte avec les mortels, ou cet ordre intelligent auquel préside un être suprême que notre cœur interroge et qui répond à notre cœur. La poésie païenne doit être simple et saillante comme les objets extérieurs. La poésie chrétienne a besoin des mille couleurs de l'arc-en-ciel pour ne pas se perdre dans les nuages. La poésie des anciens est plus pure comme art, celle des modernes fait verser plus de larmes. Mais la question pour nous n'est pas entre la poésie classique et la poésie romantique, mais entre l'imitation de l'une et l'inspiration de l'autre. La littérature des anciens est chez les modernes une littérature transplantée. La littérature romantique ou chevaleresque est chez nous indigène, et c'est notre religion et nos institutions qui l'ont fait éclore. Les écrivains imitateurs des anciens se sont soumis aux règles du goût le plus sévère, car ne pouvant consulter ni leur propre nature, ni leurs propres souvenirs, il a fallu qu'ils se conformassent aux lois d'après lesquelles les chefs-d'œuvre des anciens peuvent être adaptés à notre goût, bien que toutes les circonstances politiques et religieuses qui ont donné le jour à ses chefs-d'œuvre soient changées. Mais ces poésies d'après l'antique, quelque parfaites qu'elles soient, sont rarement populaires parce qu'elles ne tiennent dans le temps actuel à rien de national. La poésie française étant la plus classique de toutes les poésies modernes, elle est la seule qui ne soit pas répandue parmi le peuple. Les stances du Tasse sont chantées par les gondoliers de Venise. Les Espagnols et les Portugais de toutes les classes savent par cœur les vers de Calderon et de Camoens. Shakespeare est autant admiré par le peuple en Angleterre que par la classe supérieure. Des poèmes de Goethe et de Bürger sont mis en musique et vous les entendez répéter des bords du Rhin jusqu'à la Baltique. Nos poètes français sont admirés par tout ce qu'il y a d'esprit cultivé chez nous et dans le reste de l'Europe, mais ils sont tout à fait inconnus aux gens du peuple et aux bourgeois même des villes, parce que les arts en France ne sont pas, comme ailleurs, natifs du pays même où leur beauté se développe. Quelques critiques français ont prétendu que la littérature des peuples germaniques était encore dans l'enfance de l'art. Cette opinion est tout à fait fausse. Les hommes les plus instruits dans la connaissance des langues et des ouvrages des anciens n'ignorent certainement pas les inconvénients, les avantages du genre qu'ils adoptent ou de celui qu'ils rejettent. Mais leur caractère, leurs habitudes et leurs raisonnements les ont conduits à préférer la littérature fondée sur les souvenirs de la chevalerie, sur le merveilleux du Moyen-Âge, à celle dont la mythologie des Grecs est la base. La littérature romantique est la seule qui soit susceptible encore d'être perfectionnée, parce qu'ayant ses racines dans notre propre sol, elle est la seule qui puisse croître et se vivifier de nouveau. Elle exprime notre religion, elle rappelle notre histoire. Son origine est ancienne, mais non antique. La poésie classique doit passer par les souvenirs du paganisme pour arriver jusqu'à nous. La poésie des Germains est l'ère chrétienne des beaux-arts. Elle se sert de nos impressions personnelles pour nous émouvoir. Le génie qui l'inspire s'adresse immédiatement à notre cœur et semble évoquer notre vie elle-même comme un fantôme le plus puissant et le plus terrible de tous.